Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta, aujourd'hui le 21 juillet 2024. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans 9 services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes tels que la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le président Joko Widodo exprime ses condoléances pour le décès de Nguyen Phu Trong. Le ministère des Affaires étrangères garantit la sécurité de centaines de citoyens indonésiens lors de manifestations au Bangladesh. Le bilan de morts à Gaza a presque atteint 39 000 personnes. La police bangladaise tire à balles réelles sur les manifestants à Dhaka. Des coups soudains en Chine, tout au moins 20 personnes. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le président Joko Widodo a exprimé dimanche ses profondes condoléances suite au décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Dans un message sur les réseaux sociaux X, le chef de l'État a déclaré que la contribution de Nguyen Phu Trong à la formation du partenariat stratégique Indonésie-Vietnam resterait dans la mémoire des générations futures. Le président a également exprimé ses condoléances au nom du peuple indonésien au peuple vietnamien en cette période de deuil. Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de la République d'Indonésie à Dhaka continuent de surveiller la situation et de maintenir la communication avec les citoyens indonésiens au Bangladesh au milieu de grandes manifestations exigeant l'abolition du système de quotas pour fonctionnaires dans ce pays. Tel que rapporté par Antara à Jakarta dimanche, le directeur de la protection des citoyens indonésiens et du BHI au ministère des Affaires étrangères, Judah Nugraha, a déclaré qu'au 21 juillet, les citoyens indonésiens étaient en sécurité. Judah a déclaré que sur les 563 citoyens indonésiens au Bangladesh, la majorité sont des femmes au foyer mariées à des citoyens bangladais. En plus de surveiller la sécurité des citoyens indonésiens, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade indonésienne auraient également préparé des plans d'urgence pour anticiper une nouvelle escalade. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré samedi qu'au moins 38 919 personnes étaient mortes dans la guerre entre Israël et les militants palestiniens. Ce chiffre, rapporté par l'AFP à Jakarta, inclut 71 morts en 48 heures, selon les chiffres du ministère, qui font également état de 89 622 blessés dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, lors que des militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre. Un journaliste de l'AFP à Dakar, au Bangladesh, a rapporté que la police bangladaise avait tiré samedi à balles réelles sur les manifestants dans la capitale Dakar. Cité par l'AFP à Jakarta, au moins une personne a été blessée parmi les milliards de personnes présentes dans le quartier résidentiel de Rampura pour la manifestation. Les manifestants protestaient contre le couvre-feu imposé par le gouvernement pour contenir l'escalade de troubles civils. Le média chinois Xinhua a rapporté samedi que des crues soudaines dans le nord et le sud-ouest de la Chine avaient tué au moins 20 personnes et laissé des dizaines de disparus après une semaine de pluie à travers le pays. Selon l'AFP, plusieurs véhicules ont plongé vendredi soir dans une rivière en crue dans la province de Shaanxi, dans le nord-ouest du pays, après l'effondrement d'un pont faisant au moins 12 morts et plus de 30 disparus. Les enquêtes préliminaires ont montré que 17 voitures et 8 camions sont tombés dans la rivière dans la ville de Sangluo. Le président chinois Xi Jinping a appelé à des efforts complets de sauvetage et d'aide pour retrouver les personnes toujours portées disparues. La Chine connaît un été de conditions météorologiques extrêmes avec de fortes pluies dans l'est et le sud, tandis qu'une grande partie du nord est étouffée par des vagues de chaleur successives. Le changement climatique, qui selon les scientifiques est exacerbé par les émissions de gaz à effet de serre, rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. C'est tout le journal d'aujourd'hui. La mise au point de la semaine d'aujourd'hui, dont le titre est « Le ministère de l'Environnement et des Forêts examine les données de la Commission européenne concernant le volume des émissions de gaz de l'Indonésie ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts a examiné les données de la Commission européenne en tant qu'organisation exécutive de l'Union européenne qui ont déclaré que le volume des émissions de gaz à effet de serre, ou abrégé en GES, de l'Indonésie était de 1,24 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone ou l'équivalent de 2,3% des émissions mondiales totales en 2022. Ces données ont été rapportées par la Commission européenne, ou abrégée en CE, dans GHG Emissions of All World Countries 2023, qui a également déclaré que les émissions de gaz de l'Indonésie augmenteraient de 10% en 2022 par rapport à l'année précédente. Le directeur général du contrôle du changement climatique au ministère de l'Environnement et des Forêts, Lakshmi Dewandi, a déclaré jeudi à Jambi que l'Indonésie n'était pas le plus grand contributeur aux émissions, comme les émissions par habitant de l'Indonésie qui sont plus faibles que celles de pays développés dont les données de la CE ne sont pas tout à fait exactes. Même dans ce cas, a poursuivi Lakshmi Dewanti, les émissions de gaz de l'Indonésie continuent d'être supprimées et connaissent des réductions dans cinq secteurs, notamment l'énergie, les déchets, les processus industriels et l'utilisation des produits, l'agriculture et le foliage ou les forêts et autres terres. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a noté que la réduction des émissions de l'Indonésie a atteint 47,3% en 2020, puis 43,8% en 2021 et 41,6% en 2022 par rapport au niveau de référence annuel qui se situe autour de l'objectif du NDC de 43,2% avec une coopération internationale et dépassant beaucoup l'objectif de capacité nationale de 31,89%. De même pour 2023, bien que les données soient encore en cours de vérification et seront bientôt publiées, le ministère de l'Environnement et des Forêts estime que les résultats seront directement proportionnels aux résultats de réduction des émissions de l'année précédente. Selon Lakshmi Dewanti, les interventions continuent également d'être menées telles qu'elles sont incluses dans le plan national de développement à moyen terme et le programme existant, par exemple la transition énergétique vers une énergie plus durable, y compris l'arrêt anticipé des centrales électriques à vapeur, le renforcement du secteur forestier pour augmenter l'absorption du carbone et le contrôle des déchets producteurs de méthane. Dans cet effort, le ministère de l'Environnement et des Forêts a ajouté les éléments hydrofluorocarbones, ou abrégés en HFC, qui sont généralement produits par les climatiseurs au deuxième document de contribution déterminé au niveau national, ou NDC, pour réduire les émissions et éliminer leur utilisation à partir de cette année. En outre, le directeur général du contrôle du changement climatique du ministère de l'Environnement et des Forêts, Lakshmi Dewanti, a souligné que les efforts de contrôle du climat étaient également renforcés avec le soutien de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique qui a lancé la construction de tours de surveillance de gaz pour deux des six tours ciblées. L'existence d'une tour de surveillance de gaz est importante pour l'exactitude des politiques de contrôle climatique, car elle a la capacité de classer le niveau de carbone destructeur d'ozone, tel que le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote, le méthane et les hydrofluorocarbures. C'est la mise au point de la semaine.
La voix de l'Indonésie au monde. Et maintenant, nous allons écouter le programme L'Histoire d'aujourd'hui.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 21 juillet. On commence par le 21 juillet 1945, la fin de la guerre d'Indochine entre la France et le Vietnam. Un accord visant à mettre fin à la guerre entre la France et le Vietnam a été signé le 21 juillet 1945 à l'issue d'une conférence de Genève à laquelle participaient également des représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Chine et des Soviétiques. Cet accord visait suite à la défaite française au Vietnam à la bataille de Dien Bien Phu. Cependant, sous la pression des États-Unis, l'accord prévoyait également de diviser le territoire vietnamien jusqu'en 1956 et ordonner à toutes les troupes étrangères de quitter le Vietnam. Contrairement au contenu de l'accord, les États-Unis ont plutôt envoyé des troupes au Vietnam et soutenu la création de l'État sud-vietnamien. En conséquence, une guerre éclatait entre l'armée nord-vietnamienne et l'armée sud-vietnamienne. Le 21 juillet 1983, la température la plus basse de l'histoire. L'histoire enregistre le 21 juillet 1983 comme le moment ou l'endroit le plus froid où la température la plus basse de la planète a été révélée. À cette époque, la température la plus basse atteignait moins 89,2 degrés Celsius selon les mesures au sol. L'endroit qui enregistrait la température la plus basse était la station soviétique Vostok en Antarctique. Le 18 2010, les observations satellitaires ont montré une température de surface de moins 93,2 degrés Celsius. Cette valeur n'a pas été répertoriée comme une température record car elle a été mesurée par télédétection depuis un satellite et non par des thermomètres au sol, contrairement au record de 1983. Le 21 juillet 2005, les attentats à la bombe à Londres. Jeudi, le 21 juillet 2005, quatre tentatives d'attentat à la bombe ont eu lieu dans les transports publics de Londres. Cette expérience a été réalisée deux semaines après les attentats de Londres du 7 juillet 2005. Les explosions se sont produites vers midi aux stations Shepherd Bush, Warren Street et Oval du London Underground, ainsi que sur la ligne 26 du bus de Londres à Bethnal Green sur Hackney Road. Cependant, cette tentative a échoué car certaines bombes n'ont explosé que partiellement. Quatre personnes soupçonnées d'être responsables de l'attaque manquée ont été arrêtées fin juillet 2005. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G. Cece lagi.
Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web de www.voinews.it. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui intitulé GISC 2024 est un élan pour développer les sports de voile en Indonésie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, souhaite que le championnat international de voile de Jakarta ou Jakarta International Sailing Championship ou abrégé en GISC 2024 qui aura lieu au Symphony of the Sea Ancol, Jakarta du 26 au 28 juillet 2024 soit un élan pour développer les sports de voile en Indonésie. Comme indiqué mercredi sur le site internet du ministère de la Jeunesse et des Sports à Jakarta, le ministre Dito Aryo Tejo a déclaré que la voile est un sport pratiqué aux Jeux Olympiques et qu'elle devrait donc être sérieusement développée pour soutenir l'augmentation des réalisations sportives nationales. Par conséquent, il espère que l'événement GISC 2024 se déroulera sans problème et avec succès et pourra accroître l'intérêt et les réalisations pour les sports de voile indonésiens au niveau national et international. Pendant ce temps, le président du comité GISC 2024, Edi Prasetyo, a déclaré que cette activité était une initiation de Taman Impian Jaya Ancol en collaboration avec le Jakarta Dinghy Sailing Club ou abrégé en JDSC. Il espère que le championnat sportif pourra contribuer au développement des sports nautiques en Indonésie et que Ancol sera prêt à devenir une arène pour des événements sportifs. Pendant ce temps, Boy Rahmanda, responsable des relations publiques et gouvernementales, a déclaré qu'en tant que l'un des sports participant aux Jeux Olympiques, le JISC est destiné à être un forum permettant aux athlètes indonésiens de se développer. Selon Boy Rahmanda, grâce au soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, la tenue du championnat pourrait constituer un élan important pour le développement des sports de voile en Indonésie. Le championnat international de voile de Jakarta, ou JISC 2024, a réuni 200 à 300 participants de divers pays tels que l'Australie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Japon, la Malaisie, Hong Kong, l'Inde et l'Indonésie. Les catégories en compétition sont Optimi Sailing, Laser Class ou Ilcha, Windsurfing et Stand Up Paddle. En dehors de cela, le JISC sera également animé par le Dragon Boat Exhibition. Voilà mon Indonésie.
Semuanya telah kulakukan, namun bukan berarti hidup dan cintaku
mata tertuju padamu. Saat ini sejenak dengarkanlah sayang, semua itu hanya perjalanan. Dan mungkin aku akan terjatuh lagi di kesalahan yang sama.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, l'Indonésie compte de nombreuses destinations touristiques qui offrent toutes sortes de beauté à ses visiteurs. Une zone qui pourrait être une option est la région de Kudus, située à Java Central, car Kudus propose un tourisme de cascade, dont la cascade de Monter. La cascade de Monter se trouve à la frontière régionale entre le village de Japan et le village de Cholo, la région de Kudus, Java Central. L'atmosphère du secteur de la cascade Monter est assez calme. Elle est située sur un plateau notamment à la région de Mont Muria, dont l'atmosphère est fraîche, couplée aux nombreux arbres autour de la cascade, qui est une hauteur d'environ 50 mètres. Pour atteindre l'emplacement de la cascade Monter, à partir de l'entrée principale, les touristes doivent marcher environ 500 mètres, soit environ 10 minutes. En marchant, avant d'atteindre l'emplacement de la cascade, les visiteurs doivent passer un chemin escarpé qui est assez difficile.
Mais ne vous inquiétez pas, car vous regarderez une vue sur les arbres et à la fraîcheur des pentes de Moria. En outre, les visiteurs pourront également profiter de nouveau sur les plantations de café de Moria de chaque côté du parcours. Pour les touristes, qu'il n'est pas possible de marcher, ils peuvent prendre un nojek, moto-taxi, pour environ 15 000 roupias. Chers auditeurs, arrivant à la cascade Montel, qui est une cascade unique, les touristes seront immédiatement choyés par la beauté naturelle. Les touristes peuvent se baigner autour de la cascade. Le débit d'eau est très clair et propre, sortant entre les imposantes falaises sur les pentes du mont Moria. La piscine où tombe la cascade n'est pas trop grande, mais elle reste amusante pour se baigner et jouer dans l'eau. De plus, il y a de nombreux endroits pour se changer et des stands autour afin que les touristes, après s'être baignés autant qu'ils le souhaitent à la cascade de Montel, puissent déguster des collations dans les stands autour de la cascade. Chers auditeurs, il existe plusieurs versions sur l'origine du nom de la cascade de Montel. Certains disent qu'à l'époque Sunan Muria, qui était l'un des 900, propageait l'islam dans la région du mont Muria. Sunan Muria a pris le temps de se reposer et de se doucher. Cependant, il y avait quelqu'un qui voyait, ou dans la langue locale appelée Ngotil Ngotil. Le mont Ngotil est à l'origine du mont Montel que l'on connaît aujourd'hui. Une autre version dit que lorsque vous vouliez atteindre le sommet de la montagne, lorsque vous trouviez l'emplacement de la cascade à pied, qui dans la langue locale est dite Montel, alors la cascade s'appelait Cascade de Montel.
Sungguh
Asosiasi Langdonesi Angkuler, Dolati Tre Art Moments Jakarta 2024. L'exposition Art Moments Jakarta 2024, dont le concept est respectueux de l'environnement tout au long de l'événement, se tiendra du 9 au 11 août à Jakarta. Le thème de l'événement de cette année est Renouvellement, un concept lié à la vie humaine, comprenant la croissance personnelle, la transformation sociale, le renouveau culturel, le progrès technologique et la durabilité environnementale. Le cofondateur et directeur de cette exposition, Sandy Wijaya, a déclaré « Art Moments Jakarta présente une plateforme dynamique et immersive permettant aux galeries d'art et aux artistes d'explorer le thème multidimensionnel du renouveau. » Jakarta 2024 présentera des galeries nationales et internationales de premier plan présentant une variété d'œuvres d'art moderne, contemporaine et nouveaux médias, complétées par des visites artistiques organisées et divers autres événements de soutien. Cette exposition présentera également une série de discussions d'experts abordant des sujets intéressants pour la création d'opportunités d'emploi et de réseaux. L'événement s'ouvrira avec une danse de Eri Dono, le premier artiste indonésien à pénétrer la scène artistique mondiale au début des années 90. Il présentera une interprétation visuelle de la poésie qui constitue une critique acerbe du gouvernement de l'ordre nouveau. En dehors de cela, cette activité présentera également l'artiste américano-ivoirien Abdoulaye Diala Souba, appelé Aboudia. L'artiste est réputé pour ses peintures dynamiques et expressives qui combinent l'esthétique du street art avec les influences de l'art traditionnel africain. Les organisateurs s'engagent dans des stratégies à court terme telles que l'utilisation de matériaux à faibles émissions et des plans à long terme pour la conception de stands qui soutiennent les principes de durabilité. Sandy encourage également la participation de l'ensemble de la communauté artistique à utiliser des matériaux à faible émission de carbone et à démontrer un changement environnemental significatif en encourageant les individus à signaler leurs émissions, à fixer des objectifs, à former des équipes vertes et à adhérer à leur engagement pour réaliser des progrès environnementaux substantiels. Ils utilisent des panneaux recyclés pour réduire l'utilisation de bois qui a un impact sur la déforestation. C'est tout l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.poinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vais parler d'une chanson d'Alessa. Alessa, un groupe pop de la ville de Majalengka, dirigé par Putri, Elton et André. Le 17 juillet 2024, Alessa sort une chanson intitulée « Jadikan Aku yang Kedua ». Cette chanson a déjà été popularisée par la soliste Astrid, sortie en 2007. La version d'Alessa de « Jadikan Aku yang Kedua » est présentée dans une version plus moderne. Cette chanson, qui était un succès à l'époque, raconte de quelqu'un qui est entière dans la relation de quelqu'un d'autre et qui a le désir de continuer à être dans la mauvaise relation. Bon, chers auditeurs, voici Alessa intitulée « Jadikan Aku yang Kedua ». Bonne écoute!
Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia.
Voice of Indonesia.
Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, habiskan sepiku bersama. Takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.